autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous immerger dans d'autres mondes sonores que le nôtre. En prêtant pour une fois l'oreille, et oui, au chant des oiseaux, au coassement des crapauds, au brame du cerf et même aux vibrations des toiles d'araignée ou aux cliquetis échangés sous l'eau par les cachalots. Partout, sur Terre, comme dans les profondeurs de l'océan, le vivant communique et se fait entendre pour se reconnaître, constituer son territoire, se séduire, se reproduire. Autant d'échanges complexes auxquels nous prêtons rarement attention et dont le sens échappe à nos sens plus visuels qu'auditifs. Pourquoi et comment se mettre à l'écoute des autres animaux? Comment déchiffrer les partitions sonores du vivant? Piste de recherche ouverte par nos invités, la philosophe et éthologue Vinciane Després et le plongeur océanographe François Sarano, l'ami des cachalots. Autour de la question comment entrer dans le monde sonore des animaux, bienvenue pour explorer de nouveaux accords. Bonjour Vinciane Després.
Bonjour Caroline.
Bonjour François Sarano.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos recherches et vos découvertes sur les mondes sonores du vivant, à découvrir en immersion sur nos ondes tout de suite et dans ce numéro de la superbe revue Bibaud, à laquelle vous avez tous les deux collaboré en compagnie d'autres éminents chercheurs, bioacousticiens, éthologues, artistes qui ont comme vous tendu l'oreille et prêté attention aux partitions du vivant. Ça c'est le titre de votre entretien, Vinciane Després. Vous êtes philosophe des sciences, chercheuse à l'université de Liège en Belgique. Passionnée par l'éthologie, vous vous intéressez à la fois au comportement des animaux et aux chercheurs qui les étudient. Auteur notamment de Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions. C'est aux oiseaux que vous avez choisi, Vinciane, désormais de poser vos questions. Pourquoi les oiseaux? Qu'est-ce qu'ils échangent à travers leurs chants? Les chants des oiseaux territoriaux, hein, plus précisément. Qu'est-ce qu'ils se racontent et qu'est-ce que vous pouvez en déduire de leur monde et de leur territoire?
Alors les oiseaux, tout avait commencé dans cette recherche par un chant de merle que je ne comprenais pas, mais dont je voyais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce chant, notamment sa capacité à faire varier les dernières séquences de chaque morceau musical. Et donc ce merle me réveillait chaque matin et je n'arrivais pas à me rendormir parce que c'était tellement beau, tellement inventif, que je me disais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'avais l'impression que, j'avais même écrit à ce moment-là, je crois que le merle a inventé l'importance. Il y avait tellement quelque chose qui importait dans ce chant de merle qui traversait. Bernard Faure me disait que certains ornithologues parlent à propos de l'alouette des champs d'exaltation. Et pour le merle, c'était l'importance. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'avais travaillé pour le petit livre, Le Chez Soi des Animaux. Mm-hmm. J'avais aussi collaboré pour l'exposition autour des travaux de Bernie Krause par la Fondation Cartier.
Oui, il faudra se garder sur l'orchestre animal et les travaux de bioacousticien.
Oui, oui. Et finalement, les sujets, vous les choisissez pas. À un moment donné, il y a une espèce de conspiration de plusieurs sujets qui vous emprisonnent, qui vous capturent et vous retrouvez.
La conspiration des oiseaux.
Voilà, c'est la conspiration des oiseaux. Et voilà ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai commencé à ce moment-là à me dire, mais tiens, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de travailler sur la question du territoire, qui est une belle question politique, qui est souvent une question qui est maltraitée. Il y a certains grands livres de vulgarisation, je ne vais pas les citer ici, mais qui parlent de territorial impératif, d'impératif territorial, disant que les humains auraient finalement hérité d'un instinct ancestral territorial, etc. Et je me disais, mais enfin, c'est quand même un peu bizarre. La question du territoire, telle qu'elle est définie dans le droit, en fait, elle date du XVIIe siècle. Et je me dis, fortiche les animaux. Ils auraient anticipé le XVIIe siècle, le changement législatif, et seraient des petits bourgeois soucieux d'exclusivité, avant même que nous l'ayons été.
Je me suis dit, incroyable, pas si bête, c'est bête. Oui, c'est ça, voilà, ça marche pas.
Ça va pas, ça marche pas. Ça veut dire qu'on projette dans ces grands livres, je ne parle pas des ornithologues ici, hein, je parle des gens qui essayent d'utiliser l'éthologie pour tirer des principes politiques ou faire autre chose. Et donc je me suis posé la question, mais c'est quoi un territoire pour un animal? Est-ce que ces ornithologues seraient pris par ce type, d'une certaine manière, de stéréotype? Et puis j'ai découvert que non, pas du tout. Que ces ornithologues sont d'une intelligence, d'une imagination, ils sont bourrés d'hésitation, ils sont soucieux de et François va nous montrer à à quel point c'est nécessaire quand on parle des animaux, soucieux aussi de ne jamais émettre de théorie, si ce n'est provisoire, parce qu'ils se rendent compte que s'ils peuvent dire quelque chose à propos de la loi de Deschamps, ça ne vaudra pas pour le bruant à couronne blanche.
Et que chaque oiseau a un chant particulier, chaque espèce a un chant particulier qui correspond à des besoins différents, à marquer le territoire, entre autres.
Alors, il y a marquer le territoire, mais qu'est-ce que veut dire marquer ? Je vais dire, là, on rentre dans des complexités, parce que marquer, c'est peut-être pas dire c'est à moi, c'est peut-être simplement se sentir chez soi. Alors, non seulement chaque espèce a des chants particuliers, mais on découvre au fur et à mesure des recherches qu'il y a des dialectes. Et ces dialectes, en fait, ce sont des apprentissages. Les oiseaux qui apprennent le chant de leur père. Et puis, ils vont à un moment déménager parce qu'ils ne vont pas trouver de territoire là où le père vit. Et donc, ils vont devoir changer d'endroit. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ils vont apprendre le chant des nouveaux voisins avec lesquels ils vont rester toute leur vie. Et vous allez trouver comme ça une sélection de chants entre voisins qui fait qu'à un endroit donné, vous avez quelques territoires d'oiseaux qui chantent, qui ont partagé un répertoire commun, et quelques kilomètres plus loin, vous avez d'autres, la même espèce qui a un tout autre répertoire et qui a été modifiée par le fait du voisinage.
Décidément très malin, les oiseaux, vous allez nous expliquer ce que vous savez ou ce que vous avez pu explorer dans le monde sonore des oiseaux, mais on va aussi plonger sous l'eau dans un autre monde sonore auquel nous ne pouvons pas avoir accès, c'est celui des cachalots avec vous, François Sarano. Vous êtes plongeur océanographe, vous avez d'abord travaillé sur la Calypso avec le commandant Cousteau, avant de vous consacrer à l'étude des cachalots aux côtés desquels vous plongez. Alors vous les connaissez même par leur nom, par leur prénom, vous savez décoder leurs clics, comme ceux de ces deux femelles cachalots, Delphine et Vanessa. On les écoute et vous nous dites ce qu'elles se racontent.
On les écoute.
Qu'est-ce qu'elles disent ? Qu'est-ce qu'elles cliquent ? Alors, Delphine et Vanessa.
Je ne sais pas.
Ah, voilà, François Sarano.
Je ne sais pas du tout. Personne ne sait ce qu'elles racontent. Ce que nous pouvons faire au mieux, c'est d'associer ces séquences sonores de 8 clics, 2 clics serrés, puis 6 fois un clic.
Et vous parlez le cachalot, François Sarano.
J'aimais les bruits D'accord. que j'entends, et d'ailleurs on a montré que les gammes de fréquences dans lesquelles ces sons sont émis sont beaucoup plus larges que ce que nous entendons. Et on les a associés, ces codas, ces expressions sonores, à une demande de contact physique. Hein, chaque fois qu'on entend, hop, si l'autre cachalot répond, alors les deux cachalots se rejoignent et se font des câlins. C'est au mieux ce qu'on peut faire. Et tout de suite, on communique, ils communiquent, la vie communique, tout le monde communique. L'essence même de la vie est de communiquer. Les cellules communiquent entre elles.
Donc,
ça ne veut pas dire
communique.
Langage. Ah. Ça ne veut surtout pas dire langage. Et quand on dit communiquer, tout le monde dit qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que demain on aura un langage français cachalot ?
Ah oui, un dictionnaire français cachalot.
C'est absurde, c'est une mauvaise piste. Mm-hmm. Et si je peux me permettre un exemple. La musique, c'est un code, c'est très normé, c'est très grand. Et ça communique beaucoup d'émotions, parfois de l'information, mais ça ne sera jamais traduit en mots. Hein, on n'essaye pas d'avoir un dictionnaire, je ne sais pas moi, note de musique. Français. Ça, c'est absurde. On ne mettra pas en mots une symphonie de Mozart. C'est idiot.
C'est la même erreur qu'on fait. Ce sont deux modes de communication voilà. différents. C'est ça que vous dites.
Totalement. Et nous plongeurs qui sommes les explorateurs d'un monde qui nous est totalement étranger, la superficie d'un monde qui nous est étranger, on est tout de suite confrontés au fait que nos sens sont infirmes et que nous devons véritablement changer de référentiel. Oublier nos normes, tout ce qui constitue notre monde et ce que nos sens nous laissent croire de ce monde, de la toute petite partie que nous percevons, pour se dire, maintenant, on regarde, on entend et on essaye...
Mais sous l'eau, on regarde, mais on ne voit pas.
Oui, sous l'eau, on
entend,
voit très peu.
Mais on n'entend pas.
On entend ce qui est mis dans la gamme de fréquences que nos oreilles peuvent percevoir lorsque les animaux sont très près. Et lorsque les cachalots arrivent près de nous et nous interpellent, à ce moment-là, les ondes sont tellement fortes qu'on les perçoit par la cage thoracique. Ce n'est pas simplement les oreilles, tout le corps vibre. Hein, les animaux marins qui baignent dans un milieu qui transporte le son 4,5 fois mieux que l'air sont des récepteurs à vibrations, à sons. et infiniment plus que nous. Et donc, ils ont développé, hein, la vie est dans l'eau depuis 3 milliards et demi d'années, ils ont un petit peu d'avance sur nous. Hein. Rappelons-nous que les animaux terrestres, la vie terrestre, c'est 400 millions d'années. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avance. Ils ont développé une capacité à percevoir leur environnement sonore, vibratoire.
Ils vivent dans un monde sonore, oui, dans un monde vibratoire, oui, voilà. qu'on ne peut pas imaginer. Nous.
Que nous n'imaginons pas. Mm-hmm. De même qu'ils ont d'autres sens que nous n'avons pas, que nous avons mais peu développé. Hein, par exemple, le sens du magnétisme ou le goût extrêmement développé. Enfin bon, il y a des tas de choses. Nous n'avons même pas les mots pour qualifier ce qu'ils perçoivent. En deux mots, ils ont des mondes propres qui ne sont pas les nôtres.
Et, après, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est les approcher, les côtoyer, observer, alors, voilà. Écouter les,
oui,
les, leur
on
monde.
On peut y aller nu. Dépouiller de ce qu'on sait, observer, filmer, et après ça, essayer d'associer individu et émission sonore, comportement et émission sonore.
Ce que vous
sonore.
Arrivez à faire, cher.
Alors, grâce à des appareils très sophistiqués, mis au point par le professeur et son équipe, professeur Hervé Glotin, nous avons aujourd'hui un appareil portable, hein, que j'emmène avec moi en plongée, à 4 micros, qui permet...
Unique au monde. Hein.
Unique au monde, parce que l'appareil, tout petit, grâce à un processeur qui enregistre au millionième de seconde, permet de mesurer le décalage de l'arrivée des sons sur chacun des micros, bien qu'ils soient distants de seulement 60 cm. Et donc, nous pouvons, grâce à cette quadrangulation, pointer du doigt l'origine du son. Et comme je filme en même temps, je peux pointer du doigt la tête du cachalot qui émet le son. Et à ce moment-là, associer ce son à cet individu, et j'insiste sur le mot individu, parce que ce que nous découvrons, c'est qu'il n'y a pas des cachalots, c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'individus comme nous les hommes. Nous sommes tous pareils et nous sommes tous différents. Les cachalots sont tous pareils et tous différents.
On va y revenir, hein, parce que je crois que chez les oiseaux, c'est pareil. Ce sont des individus chez tous les animaux. Autour de la question, comment pénétrer justement le monde sonore des animaux ? Bon, c'est plus facile, hein, vous le reconnaîtrez, François Sarano, sur Terre et dans les airs que sous l'eau. De plus en plus de chercheurs, d'ailleurs, de bioacousticiens, de naturalistes, mais aussi d'artistes s'y intéressent. C'est un nouveau champ de recherche sonore qu'on peut même découvrir au cinéma, dans un documentaire assez inouï, L'Esprit des lieux, réalisé par Stéphane Manchematin et Serge Steyer, qui ont suivi un naturaliste et preneur de son passionné et passionnant dans sa quête de son. C'est l'atypique Marc Namblard qui consacre sa vie à enregistrer, à écouter et à transmettre les sons qu'il perçoit dans sa forêt des Vosges, un véritable art de l'écoute à partager.
Avant de placer le micro, je passe un certain temps à repérer les odeurs des animaux qui sont passés, les empreintes, etc. La résonance des lieux aussi est importante.
C'est une technique de chasse, quoi.
Oui, d'une certaine manière,
de chasse de son.
D'approche du son, quoi.
Écoute, on entend le bout de la glace qui craque.
Ça m'arrive souvent de faire des rêves où je me retrouve dans une sorte de clairière, comme ça, dans la forêt, et puis il y a des animaux qui sont présents, mais je les vois pas. Et il y a une ambiance sonore là qui monte, et j'ai le sentiment, dans ce rêve, que les animaux sont en train de jouer quelque chose pour moi.
Extrait de L'Esprit des lieux, formidable documentaire qui est aussi une invitation à écouter, à se mettre à l'écoute, à ouvrir nos oreilles. Je ne sais pas si vous faites des rêves de cachalots qui vous parlent ou qui cliquent pour vous, François Sarano.
Pas encore. Et pourtant, Dieu sait si je passe des heures avec eux.
Et oui, sous l'eau. Nous sommes en tout cas des animaux visuels, nous les humains, Vinciane Després, on est plus sensibles aux formes, aux couleurs qu'aux sons. Est-ce qu'on a oublié un peu de se préoccuper d'écouter les autres mondes sonores?
Alors, il faut voir qui on va dire par nous. Je pense que si on parle de nous ici, c'est probablement quelques personnes citadines, etc. Je pense qu'il y a encore des cultures qui continuent, bien sûr, à fonctionner et à privilégier les sons. Et donc, le nous humain ne fonctionne pas, comme le nous cachalot ne fonctionne pas, comme le nous oiseau ne fonctionne pas. Alors, il y a quelque chose qu'il vient de dire, il y a des animaux qui sont présents, mais on ne les voit pas. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est, en effet, c'est peut-être ça que le son nous apporte. Mm-hmm. C'est le fait de devoir laisser tomber un privilège de la vision qui entraîne certaines formes d'intelligence, et il ne faut pas les dénigrer, mais qui va supprimer d'autres formes de sensibilité. Alors je reviens à ce que quelque chose que François disait et que j'ai adoré, c'est qu'on dit, on ne peut pas traduire de la musique en paroles, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut à la rigueur mettre des paroles sur la musique, mais pas, on peut pas, c'est tout à fait autre chose. C'est des accompagnements hétérogènes à ce moment-là. Et je me suis dit, au moment où il parlait, je dis, mais c'est extraordinaire, il vient de définir exactement qu'est-ce que ça veut dire créer des effets. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une communication telle qu'il l'a décrit et telle qu'un oiseau pourrait l'avoir avec un autre oiseau? C'est avoir des effets à distance. Et en fait,
sur l'autre. Et oui, bien sûr.
Sur l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la stigmergie, c'est-à-dire la possibilité d'influencer de façon très lointaine le comportement des autres. Et bon, le visuel n'a peut-être pas ce type de possibilité. D'abord parce qu'il faut être très près quand on fait du visuel. Et en plus, il y a quelque chose dans le visuel. Et là, je vais me référer à la philosophe Salomé Vogelin qui avait écrit un très, très joli livre sur les mondes sonores. Sur l'intérêt, je vais reprendre une phrase de Donna Haraway, d'habiter le phonocène. D'habiter, on peut penser.
On parle de l'anthropocène, voilà, on parle de l'anthropocène.
On peut parler du capitalocène, on peut parler avec Anna Tsing du plantatiocène. Et chaque fois, ce sont des prises et des engagements différents et tous sont utiles. Mais on peut aussi habiter le phonocène. Je pense que ce que François fait comme travail, c'est nous aider à habiter le phonocène, c'est-à-dire nous rendre attentifs et ouverts aux bruits du monde. Les bruits étant aussi bien les craquements terribles de ce monde qui va très mal, que des chants d'oiseaux, que des paroles, enfin pas des paroles, que des dits de cachalots, etc. Alors, on est là-dedans. Et Salomé Vogelin disait, peut-être que la différence entre le son et le visuel, c'est que le visuel est fait de contraste. Quand une forme s'arrête, une autre commence. Donc c'est toujours par des limites.
Alors que le son, c'est plus continu.
Alors que le son est continu et que le son ne peut jamais être seul. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire du son à une pierre. Vous pouvez donner une forme à une pierre si vous avez un fond, mais une pierre seule ne fera pas du son. Il faut soit une autre pierre, soit il faut de l'eau, il faut...
Bref, c'est l'échange, c'est la communication, c'est le son doit être entendu par quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Et mon doctorant Thibaut Demeyer, qui est un philosophe de l'éthologie absolument merveilleux et qui a un sens de toutes ces choses, disait quelque chose de très joli, c'est que la vision nous met en quête de vérité, il faut le voir pour le croire et toutes ces expressions. Le son nous met en quête de réalité. Et c'est-à-dire que le son ajoute de la réalité à la réalité. Et je trouve que philosophiquement et au niveau de l'expérience qu'on a quand on entend un oiseau chanter ou quand on entend un cachalot et qu'on entre dans son monde, qu'il est en train peut-être de créer, vous savez, il y a
du coup on partage beaucoup plus, on se met un peu, on se tait nous-mêmes pour pouvoir partager avec les autres. Vous parlez, Vinciane Després, d'écouter un oiseau chanter. Alors comment chante-t-il? Nouvelle question un peu saugrenue, soulevée par Caroline Tourbe du mensuel Science et Vie.
Est-ce que chez les oiseaux, par exemple, comme chez les humains, il y en a qui chantent faux?
À votre avis, Vinciane Després?
Alors, la question de chanter faux, eh bien, probablement que oui. Alors, je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais je dirais que oui. La première raison, c'est une raison logique. Il n'y a pas d'animaux stupides chez des animaux qui ne sont pas très intelligents. Je veux dire, c'est difficile de voir un animal peu doté d'intelligence faire quelque chose de très stupide. Alors qu'un animal, chez les animaux très intelligents, vous aurez des animaux qui peuvent faire des choses très stupides.
Oui, il y en a des moins intelligents que d'autres et des plus intelligents.
C'est-à-dire que là où l'intelligence est importante pour s'en sortir, pour s'en tirer, vous pouvez avoir des êtres qui sont un peu maladroits, mal dégrossis, qui n'ont pas été éduqués comme il faut, bref. Et chez les oiseaux, vous rencontrez ce phénomène. C'est qu'il y a des oiseaux qui, dans certaines circonstances, n'apprennent pas bien à chanter.
Certains oiseaux apprennent à chanter.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut pour autant employer le terme chanter faux?
C'est là où
est-ce qu'il ne s'agit pas d'une variante qui demain d'ailleurs pourra être transmise aux autres et devenir une nouvelle règle? C'est-à-dire que le mot faux lui-même,
là, on met un jugement
par rapport à une sorte de norme, de code qui est établi, ça vaut bien pour chez nous. Dans le reste du vivant, c'est la règle. L'erreur, c'est la vie. La vie, c'est la reproduction et l'erreur. S'il n'y a pas cette erreur, c'est-à-dire cette différence, ce qu'on appelle ici le faux, on est tous pareils, c'est de la copie de copie de copie. Nous sommes le fruit de l'erreur.
L'erreur,
c'est la différence, c'est la diversité. Sans erreur, sans ce que nous appelons faux, il n'y a pas de diversification. Et donc, certains oiseaux qui pourraient être qualifiés de chanter faux à un moment donné, sera encore une fois peut-être la norme de demain. Ils chantent différent.
Je peux être d'accord avec l'idée, par exemple, qu'une dissonance pourrait créer des nouvelles formes musicales, mais il y a néanmoins des oiseaux qui ont des répertoires. Alors, c'est pas faux, en effet, François, tu as raison, c'est pas faux, il y a des oiseaux qui ont des répertoires beaucoup plus pauvres que d'autres, au sein d'un même groupe, simplement parce qu'ils sont pas doués, parce qu'ils ne sont pas suffisamment exercés. Par exemple, des oiseaux qui naissent très tôt dans la saison, remarque-t-on, chantent mieux que ceux qui naissent tard dans la saison.
Parce qu'ils ont moins eu le temps de s'exercer.
Voilà, et comme à partir d'un certain moment, les adultes arrêtent de chanter ou chantent très peu, eh bien, ils auront quelques semaines d'apprentissage, et c'est un peu peu. Et ça va peut-être même déterminer le fait qu'ils aient ou non un territoire ultérieurement. Et donc, l'exercice du chant va être tributaire
très
de quantité d'événements de vie qui font que certains oiseaux deviennent de vrais experts et d'autres vont devoir attendre un peu plus longtemps ou parfois même très mal se débrouiller et pas bien s'en tirer.
Et on en revient là aussi à la notion d'individu, parce que François Sarano, vous l'avez dit, on ne peut pas parler des cachalots. Enfin, pour vous, ça n'a aucun sens. Vous parlez de Irène Goltordue, vous parlez de Elliot, Delphine.
Nous connaissons à ce jour, du côté de l'île Maurice, là où nous plongeons, 120 cachalots différents et nous plongeons régulièrement avec 17 femelles adultes et leurs 12 jeunes que nous avons vus naître. Et donc nous suivons ces jeunes depuis leur naissance, certains ont 8 ans aujourd'hui, et les plus jeunes, Lana est née dans la nuit du 20 au 21 février cette année. Donc
ça, c'est précis,
on a des très jeunes, on sait, c'est la sœur d'Arthur, etc. Donc nous les connaissons individuellement. Et maintenant je dis personnellement. Pourquoi ? Parce que nous avons vu au cours du temps, de leur croissance, leur personnalité et leur caractère s'exacerber. Et nous avons...
Personnalité des cachalots.
Oui, personnalité.
Par exemple, voilà.
Par exemple, Elliot est probablement celui qui est le plus curieux, explorateur.
Elliot, avec qui vous avez vécu une expérience étonnante.
Il est particulier. C'est vraiment un cachalot qui ne se contente pas du monde dans lequel il vit. Il a envie d'explorer, comme Vasco de Gama ou, je sais pas, moi, Marco Polo, a envie d'explorer le monde. Hein, il y a, chez lui, une envie d'aller voir l'autre. Alors que, par exemple, Arthur, qui était mon petit préféré, est très timide. Il n'ira jamais en au-devant, voir le bateau. C'est pas du tout des personnes. Et on a des personnalités très différentes chez les mères. On a des mères qui sont des mères poules. Lucie est une mère poule incroyable. Elle a été avec Roméo, elle ne le quittait pas. Elle l'allaitait tout le temps.
Nous parlons bien de cachalot, de l'île
Maurice. On parle de cachalot.
Voilà.
Et sa demi-sœur Mina ne s'occupe pas de son petit Ali. C'est sa grand-mère qui s'en occupe. Et nous venons de découvrir, grâce à l'analyse génétique, stupéfaction, que le petit Alexander, qui est tout le temps avec Amy, n'est pas du tout son fils. Il est le fils de Caroline, et Caroline ne s'en occupe jamais.
Bon,
c'est-à-dire qu'on
exagère,
a toutes
Caroline.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variété de personnalités au sein d'un tout petit clan, et que nous ne savons pas trouver la généralité qui nous permettrait de dire... Les cachalots, eh bien, c'est matrilinéaire, ça fonctionne comme ça. Oui, on peut dire les cachalots mangent des calmars, ils respirent à la surface. C'est comme ça que d'ailleurs qu'on peut accéder à leur monde et aller voir eux. Mais c'est tout. Au-delà de ça, comme pour nous, il est nécessaire de vivre avec eux pour les connaître. Et je fais une différence fondamentale.
Vivre avec eux.
Oui, vivre avec eux. Pour connaître, il faut vivre avec. On peut... apprendre des choses et avoir un savoir et le lire dans des livres ou avoir un maître qui vous l'enseigne. Mais si je veux connaître, je suis obligé de m'engager, de créer des liens ou au moins d'être avec pour connaître. Et c'est quelque chose de fondamental parce que ça fait passer bien d'autres informations que les seules choses apprises. On ressent les choses et on peut aborder d'autres mondes, d'autres référentiels et d'autres sens. Vous avez parlé de l'audition, mais il y a des tas d'autres manières de communiquer. Les cachalots sont les rois de la caresse. Ils communiquent
beaucoup
comme ça.
Et justement, à propos de caresse, il faut absolument que vous nous racontiez, François Sarano, ce que vous racontez dans cette revue Bimaud, c'est l'appel d'Eliot, donc cet Eliot un peu particulier, explorateur, curieux. Il vous est arrivé une sacrée aventure sonore. Peut-être qu'on peut écouter Elliot. Alors, je ne sais pas si c'est Elliot qu'on écoute ou si c'est Tête Blanche.
Tache blanche. Et ce ne sera pas la bonne expression sonore. Parce que ce qui a caractérisé l'approche d'Elliot.
On l'écoute ou pas ?
On l'écoute.
Allez, on l'écoute quand même. C'est un grognement de tache blanche ?
C'est pas un grognement, c'est un peu comme le bruit d'une porte qui se ferme. Ça, c'est une approche traditionnelle. Les cachalots viennent vers nous et peut-être nous disent bonjour. C'est une sorte de caresse. Hein,
mais voilà. Un bonjour en cachalot, peut-être.
Un bonjour
peut-être,
en cachalot.
Probablement.
Allez, j'aimais cette hypothèse merveilleuse. En revanche, ce qui s'est passé avec Elliot, c'est très différent. Nous étions avec mon ami René Euzé en plein océan. Hein, vous avez 2000 mètres sous les palmes et vous êtes à 1000 milles des côtes. Enfin, 1000 milles, à 5000 des côtes. Et tout d'un coup, Elliot, cet explorateur, jeune mâle, qui avait à l'époque 7 ans, est venu vers nous et il a commencé à danser pour nous, à danser.
Pendant une minute,
à danser. Donc il s'est mis à pirouetter, à faire toutes sortes d'arabesques extraordinaires. Les cachalots qui pèsent des tonnes sont des tonnes de légèreté, de délicatesse.
Bien
c'est
sûr.
Formidable. Et donc, Elliot s'est mis face à moi et a exprimé 40 fois de suite, et a émis 40 fois de suite cette fameuse coda de 8 clics qui, encore une fois, est associée à cette demande de contact physique. Ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que d'abord ça a duré 10 minutes et qu'un animal qui n'est pas bien, un animal sauvage, je répète, ce sont des animaux sauvages, des géants sauvages, dont l'équivalent terrestre sont l'hippopotame ou l'éléphant. Donc, il est venu et il a tenté de m'apprivoiser dans son langage. J'étais à sa merci, nous étions à sa merci. C'était sa décision de rester là. Et il ne serait pas resté là s'il n'était pas bien. Et il n'aurait pas émis ce type de coda, il aurait émis ce fameux grincement et puis après il s'en serait allé.
Alors que là,
il a émis ce type de coda destiné uniquement normalement à un congénère et a insisté avec toutes sortes de contorsions pour, encore une fois, j'interprète ça comme m'apprivoiser. Et donc ce renversement des rôles, celui qui maladroit voulait étudier l'autre, est étudié par Elliot. Et celui...
Et Elliot qui vous a demandé quoi? Un contact physique en fait, une caresse, une approche.
Si j'associe ces codas à ce que je vois chez les autres cachalots, c'était une demande de contact physique. Et là, ce qu'il y a de bouleversant, encore une fois, c'est qu'on se retrouve comme dans un miroir. C'est lui qui tente d'apprivoiser. Nous croyons, nous, les hommes, que nous avons le monopole de l'envie d'apprivoiser les dauphins ou les chèvres. Pas du tout. Les animaux, eux aussi, ont envie d'apprivoiser la différence, l'autre.
L'énorme cachalot Elliot voulait apprivoiser le petit humain François Sarano.
Voilà. Ce que n'auraient pas fait Arthur ou Roméo. Voilà.
Et Elliot, donc, parce qu'il était curieux, explorateur.
Parce que c'est un individu particulier. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, qui me plaît beaucoup, c'est que, bien évidemment, Elliot ne me comprendra jamais. Et moi, je ne comprendrai jamais Elliot.
Mais malgré tout, il y a eu envie d'un contact.
Et malgré tout, ce qui a été intéressant là-dedans, c'est bien que nous ne nous comprendrons pas. Nous avons trouvé la distance juste qui nous permet de vivre bien en paix ensemble. Et il me semble que c'est ça une leçon intéressante. L'important n'est pas de se comprendre. L'important, c'est d'écouter l'autre et de vouloir se comprendre. Et à ce moment-là, on trouve toujours la distance pour vivre en paix. Et c'est bien au-delà de ce qu'on vit avec les cachalots. C'est avec mon voisin qui est musulman, avec un autre qui a des traditions différentes. Je ne le comprendrai pas. Mais par contre, si je veux le comprendre, alors je vais trouver cette distance de paix. Et c'est ça que me dit Elliot.
Merci. Hein. On va rester méditer sur ce que vous venez de nous dire, François Sarano, en écoutant non pas le courage des cachalots, mais le courage des oiseaux, signé Dominique A. Sur RFI.
Vu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois pas. sans tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des
le courage des oiseaux. Pourquoi ce choix, Vinciane Després?
Alors, c'était la chanson, j'ai trouvé très très belle, et je trouvais que ce mélange de parler à la fois des oiseaux en termes de courage et de chant, et de croiser ça avec des histoires humaines, mais sur un mode qui n'est pas le mode de l'analogie, ni rien, qui est juste un souhait, si nous avions le courage des oiseaux. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce qu'il y a des ornithologues qui osent parler. Alors, le mot courage, parfois, je peux le rencontrer. Il y a une véritable admiration chez certains ornithologues par rapport à l'obstination incroyable de certains oiseaux, notamment à chanter, et à le faire le mieux qu'ils peuvent, et à s'exercer, et à tenir le coup. Parce que elle est rude, la vie des oiseaux. Et elle est encore plus rude maintenant que ce qu'elle était il y a quelques temps d'ici. Parce
elle est rude, la vie des animaux sauvages, enfin, dans leur monde. Hein, François Solano,
ce que j'appelais rude, c'est aussi parce que pour le moment, ça devient de plus en plus difficile bien pour sûr, eux de vivre. Hein, cette rudesse-là.
Leurs habitats diminuent.
Voilà, je ne parlais pas de rudesse relationnelle entre eux. Ils peuvent être parfois vifs, ils peuvent parfois protester ou s'indigner contre le comportement des autres, parce que ça, c'est les oiseaux sont vraiment très bons pour s'indigner, pour protester. Hein, il suffit de voir deux hirondelles et on comprend tout de suite ce que je veux dire par la protestation d'hirondelles. Mais c'est la rudesse plutôt des conditions dans lesquelles ils vivent, et je pense que c'est aussi bien le cas des oiseaux que des cachalots.
Oui. François Serrano.
Les cachalots aujourd'hui, ils vivent dans un monde plein de plastique, ils mangent tellement de plastique qu'ils en crèvent. Mm-hmm. C'est juste dramatique, il faut qu'on se rende compte de ça. Mais sinon, les animaux sont tous dans leur monde bien. Il faut oublier, c'est bien adapté à son environnement. Il n'y a aucun animal qui est mal adapté à son environnement. Hein. Il faut oublier, c'est pas dans des mondes durs qu'ils sont. Ils sont durs pour nous. C'est nous qui nous projetons dans leur monde, ouais, et trouvons que c'est très dur. Mais pour eux, c'est très très simple. Moi, quand je me projette à Paris, je trouve ça un monde très dur. Très
finalement, c'est mieux avec les cachalots de l'île Maurice. Autour de la question, comment pénétrer justement dans le monde sonore des animaux en général, et cette fois-ci des oiseaux en particulier. Il y a de nombreux compositeurs qui se sont évidemment intéressés au chant des oiseaux, jusqu'à même parvenir, pour certains, à jouer avec eux. On écoute le duo Sensible, formé par le compositeur Bernard Faure, avec un soliste élégant, le chardonneret élégant. Élégant, morceau signé Bernard Faure avec un chardonneret élégant. Finalement, tout est possible quand on apprend à s'écouter, Vinciane Després, pour reprendre aussi ce que vient de dire François Serrano.
Alors, il y a quand même des expériences musicales extraordinaires. On va penser François Bernard Mage a fait aussi ce genre de choses. Évidemment, Olivier Messiaen, ce serait grave de l'oublier. J'ai viens de lire le livre aussi de Pascal Quignard qui décrit la vie d'un homme, d'un pasteur, Simon Peace Cheney, qui voulait annoter musicalement même le bruit de la goutte d'eau qui tombe dans l'arrosoir et qui fait... Le monde devenait un monde musical avec lui. Et je crois que c'est ça qui ressort de ce genre de choses. C'est... En effet, j'ai remarqué quand on écoutait, d'abord on n'avait pas envie que ça s'arrête, hein, François. Mmh. Et puis on a eu tous les deux tendance à fermer les yeux. Et fermer les yeux pour mieux entendre encore. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est une expérience. En effet, comme tu l'as décrit, c'est une expérience qui nous met. Alors, je reprends ça, Donna Haraway qui disait quelque chose de très joli, c'est qu'on peut avoir des expériences de profonde intimité sans proximité. Je veux dire, quand François nous parle des cachalots,
pour il moi, y a une profonde intimité.
Extraordinairement intéressant parce qu'il faut qu'il y ait de l'intimité pour qu'on les connaisse. Il faut que François y aille tout en me parlant tout le temps de la distance juste et de ne cesser d'insister là-dessus. Nous ne nous comprendrons pas, mais nous allons tenter quand même. Et il faut de la juste distance. On ne va pas aller se frotter contre les cachalots, c'est peut-être pas une bonne idée. Et Donna Haraway parlait de cela à propos notamment de certaines expériences de faire connaissance sans nécessairement aller sur place pour certaines choses où quelques chercheurs y vont et puis partagent avec le reste afin que tout le monde n'y aille pas. Parce que c'est en y allant tous qu'on met encore plus le monde en danger. Je pense par exemple à la barrière de corail. Si tout le monde va plonger pour la voir, c'est certain qu'elle ne va pas rester très longtemps.
Et puis c'est aussi changer complètement de paradigme ou d'approche. C'est-à-dire, vous dites, c'est écouter les autres, écouter leur monde. Et effectivement, avec nos oreilles, on n'est pas tellement plus fort que ça.
Je pense quand même que ça doit être vécu. Il est très difficile de ressentir sans être soi-même sur le terrain, en contact. Et il me semble qu'il faut former des gens à encadrer tout le monde pour aller vivre l'expérience. On ne peut pas faire l'économie de l'expérience. Alors, on apprend des choses, on a des savoirs, mais je ne peux pas savoir rencontrer l'autre si je ne suis pas allé vers lui, si j'ai même pas fait des erreurs. Il faut avoir le courage de ces erreurs, même avec les cétacés, même avec les cachalots.
Qu'est-ce sinon, que vous avez appris pas... ou quelles plus belles erreurs vous avez faites
Mais d'aller François trop près, de ne pas près. Avoir suffisamment de respect, de bienveillance, mais heureusement, mes camarades étaient là pour ensemble se dire ce sont des êtres non humains, on doit les respecter, on doit faire comme si nous étions entre nous. Par exemple, on ne pose pas la main sur l'épaule de son voisin tout de suite, il faut y être invité.
Enfin, bon. Distance
donc
de
trouver
sécurité.
La distance. Mais ça ne s'apprend pas dans les livres. Il faut aller au contact, il faut se reconnecter au vivant. Il n'y a que comme ça que nous ne serons pas indifférents à ce vivant qui disparaît. Et il n'y a que comme ça que nous ne fantasmerons plus le vivant. J'entends des choses sur la vie marine, les requins, des choses comme ça, par des gens qui n'ont jamais fait l'expérience. Et cette expérience, elle se fait par tous les sens.
Les requins, ils ne s'arrêtent pas comme Elliot, mais ils passent à côté de vous.
Ils passent à côté de vous. Avec Jacques Perrin, Jacques Luzot, nous avons tourné un film qui s'appelle Océan. Et au cours d'une des scènes, j'ai nagé épaule contre nageoire avec un énorme requin blanc de 5,50 m, les dents de la mer. Ce moment très court, hein, une minute, mais où nous avions trouvé la distance juste entre des êtres qui, encore une fois, nous sommes si différents qu'on ne peut pas se comprendre, c'est un moment de paix. Et cette paix est si contagieuse, si forte que vous avez envie de la partager avec tout le monde. Vous avez envie de la partager avec tous ceux que vous aimez tout le monde ce jour-là. Ça vous ouvre sur les autres, des rencontres comme ça. Il faut les vivre, et on les vit avec tous les sens. C'est ça qui est important dans le terrain, dans la rencontre sous l'eau, dans tout le monde sur la grande barrière de corail. Bien sûr qu'il faut le faire avec bienveillance, avec respect, mais il faut se retremper. Je suis sûr qu'il faut sortir des villes et du virtuel. Sinon, on va crever à la fois d'indifférence et encore une fois de fantasme.
Allez, pour ne pas crever justement, autour de la question comment être à l'écoute de tous les autres et de tous ces autres mondes sonores, on continue de s'interroger avec Jacques Higelin sur RFI, c'est votre choix. François Sarano, quand le grand Jacques nous fait son crocodile.
Vous écoutez RFI. Autour de la question.
On est de plus en plus, de moins en moins considérés comme des êtres humains à part entière, plutôt comme les têtes de bétail du troupeau. Qu'au pire, on mène à l'abattoir et qu'au mieux, on envoie paître à boire et brouter là où la bête. Facile à traire aussi, petit agneau qui t'aide encore ta mère, méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter
les narines et l'œil opaque. Des gros reptiles à quatre pattes qui te guettent pour te happer et te croquer tout coup pris en tenaille dans les mâchoires de crocodile. Bien, crocodile. Crocodile, ni pitié ni cadeau, serré sous les crocs du crocodile. On est de plus en plus, de moins en moins cons, cernés par les discours, plein d'astuces et de consensus, des engraisseurs de porcs qui nous sucent le cortex. On est de plus en plus enchaînés au rouage de la machine qui s'emballe, nous entraîne en spirale vers le bas, vers le chaos aussi.
Jacques Higelin sur RFI et son crocodile. Ça ne m'étonne pas qu'il vous plaise, Jacques Higelin. François Sarano, autour de la question comment pénétrer dans le monde sonore des animaux les plus différents, les plus fascinants, voire les plus effrayants. Nous sommes donc en votre compagnie, François Sarano, plongeur océanographe qui clique avec les cachalots, et en compagnie également de la philosophe Vinciane Després qui déchiffre les partitions sonores du vivant en général et des chants des oiseaux territoriaux en particulier. Je propose tout de suite un nouvel éclairage sonore, celui de l'herpétologue Françoise Sercollet du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, spécialiste, elle, du monde des serpents, des grenouilles, des crapauds et des salamandres qui tous savent se faire entendre.
Chez les serpents, il y en a qui vont souffler. Ce sont des animaux qui vivent dans des régions tempérées, enfin où on peut perdre son eau. Alors que chez les serpents du désert, où là, voilà, il faut surtout pas perdre son liquide, eux, ils vont frotter leurs écailles, notamment pour faire du bruit, pour alerter. Et vous avez effectivement les fameux serpents à sonnette, qui eux, ont une accumulation donc de peau morte, qui forment notamment cette clochette et qui sert donc d'avertissement. Voilà, attention, danger. Chez les crapauds et les grenouilles, ça va chanter. Et ça va surtout chanter en période de reproduction, puisque les mâles, pour la plupart, ont ce qu'on appelle un sac vocal, donc sous la gorge, qui va leur servir de caisse de résonance, finalement, pour appeler notamment les femelles à la reproduction, et pour dire aussi aux autres mâles, attention, ici c'est mon territoire. Donc il y a vraiment une communication sonore chez les anours, hein, donc les crapauds, grenouilles et compagnie.
Quand on entend coasser les crapauds et les grenouilles, ce sont les mâles qu'on entend.
La plupart du temps, ce sont les mâles. Après, il y a quelques espèces, notamment, où la femelle donc répond. En France, je pense à l'alite accoucheur. Ça ressemble effectivement à un petit crapaud. Et vous connaissez certainement ce chant, ça fait une petite note flûtée qui fait pou, pou, pou. Comme ça, et les femelles donc répondent. Donc il peut y avoir des concerts comme ça, de petites notes flûtées le soir, et c'est très agréable à entendre.
Une réaction, Vinciane Després, à ces harmonieux chants de crapauds. Les femelles participent à ces chants d'ailleurs. On a quand même tendance, un peu comme pour les oiseaux, à penser que ce sont les mâles qui chantent.
Alors, majoritairement chez les oiseaux, ce sont les mâles qui chantent, mais il y a quand même des femelles qui chantent, mais on s'y est peu intéressé, ce qui avait d'ailleurs motivé trois chercheuses à écrire un superbe article que je traduirai, dont le titre disait « Les femelles des oiseaux chanteurs se battent encore pour être entendues ». Et donc, ce qu'elles faisaient comme hypothèse, et qui est une hypothèse je pense qui est largement admise par beaucoup d'ornithologues, c'est que les femelles auraient chanté au départ et qu'en fait, il y aurait eu plus d'oiseaux chanteurs dans les ancêtres et que les chants se seraient éteints chez certains et qu'elles auraient renoncé pour certaines raisons. En fait, pas tout le monde est d'accord avec cette idée, mais c'est une des idées qui apparaissait dans leur article et que j'ai pu retrouver également dans d'autres livres sur la question du chant des oiseaux, mais avec toujours, il y a énormément de controverses. Ça, c'est le premier point.
Alors, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas et on ne peut pas leur demander.
On ne peut pas leur demander. Comment il y a des recherches génétiques qui sont en train de se faire, et etc. Donc, parce que la question se pose, c'est est-ce que à l'origine, tous les oiseaux auraient chanté et le chant aurait été codé génétiquement et qu'il n'y avait pas d'apprentissage? Ou bien est-ce que c'est deux voies différentes de l'évolution? Donc il y a plein de questions qui restent. Il y a peut-être des réponses que je ne connais pas. Je ne suis pas spécialiste.
Quelle est la question autour du chant des oiseaux, de leur territoire? Puisque vous creusez cette question-là, Bastien Després, quelle est la question peut-être le plus grand mystère autour de ces chants d'oiseaux, de cette communication des oiseaux?
Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me paraît de plus en plus intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il y a des contenus sémantiques dans ces chants.
Est-ce qu'il y a du sens?
Alors, visiblement, on ne peut pas faire de généralité, mais visiblement, dans certains... Alors, il y a des cris d'appel où, par exemple, le mot « aigle », ce qui pour nous représente un aigle, peut être reconnu par les chercheurs, Faucon notamment, quand il y a des cris d'alarme avec des spécifications de quel type, est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est loin, par exemple, si c'est un petit signal bref, ça veut dire attention les gars, c'est vraiment,
il est là, tout près, le faucon.
Si c'est un signal plus long, ça veut dire allez, on a encore un peu de temps, etc. Ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième point, on a constaté, et ça, c'est des choses que je découvre au fur et à mesure, parce que moi, je suis toujours dans ma recherche, que par exemple, quand deux oiseaux sont voisins, ils vont partager le même répertoire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si un commence à chanter, si l'autre répond avec le même chant exactement, on a une escalade dans l'agressivité probable. S'il répond par un chant du répertoire commun, mais qui n'est pas le même chant, donc il varie dans le thème, à ce moment-là, il n'y a pas d'escalade dans l'agressivité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est déjà dans des contenus sémantiques ou bien est-ce qu'on est simplement de nouveau dans des effets? Ça, c'est le point qui me semble important.
Grande question. Vous, François Sarano, quelles questions vous posez à vos, pas aux cachalots, mais à chacun d'entre eux, hein, puisqu'on a bien compris que
là, ce sont des individus. Elles sont du même ordre. Mm-hmm. Hein, c'est évident que dans la communication sonore des autres, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il y a du sens, etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le petit cachalot apprend-il le dialecte qui est propre à sa famille? Est-ce que c'est par imprégnation, parce que les vibrations dans l'eau, elles passent directement dans le fœtus, parce que c'est
oui,
de l'eau dans l'eau,
hein,
tout ça
le...
c'est de l'eau dans l'eau, donc ça. Est-ce que c'est par imitation, parce que nous avons enregistré un très très jeune cachalot qui avait une semaine avec sa mère et qui dialoguait en utilisant cette fameuse coda à 8 clics, qui est caractéristique de la famille de Irène Gueule-Tordue. Les autres familles...
Irène Gueule-Tordue, c'est une cachalot.
C'est la matriarche,
du clan des cachalots
avec lequel nous suivons. Et cette coda à 8 clics est spécifique à cette famille. Les autres familles utilisent préférentiellement d'autres codas. Donc, il y a une sorte de dialecte propre qui ne veut pas dire qu'ils ne se comprennent pas trop, mais c'est comme un Marseillais, un Parisien. Il y a des changements de rythme. Ils n'utilisent pas toujours les mêmes mots, il y a des mots spécifiques, etc.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que ce mot
mais
coda, on le retrouve dans la musique, on le retrouve dans le jazz, et c'est assez étonnant.
C'est pas moi qui l'ai donné, c'est les premiers chercheurs qui ont travaillé sur les cachalots et qui ont vu cette analogie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage et après la transmission éventuellement d'un groupe à l'autre chez des adultes. Donc tout ça est passionnant et encore une fois, nous sommes à l'aube. Et ce que je tiens à dire, c'est que chaque observation nous prend à contre-pied et contredit bien souvent ce que nous avons cru savoir la veille. Le monde sauvage est un monde infini et il reste tout à découvrir. On ne sait rien.
Merci infiniment François Sarano et Vinciane Després d'être venus en direct partager comme ça un peu de cet extraordinaire monde sonore des cachalots, alors j'ose même plus dire des cachalots mais du clan d'Irène Gueule-Tordue et des oiseaux en général. Pour en savoir plus, je vous renvoie sur cette revue Bilbo, de magnifique revue coéditée par la Fondation François Sommer du Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, par la Philharmonie de Paris et par les éditions Glénat, revue magnifique à déguster avec les yeux et avec les oreilles. Merci à tous les deux. Vous revenez quand vous voulez, on n'a pas fini d'écouter le monde
Caroline.
Sonore des autres.
Merci beaucoup.
Merci,
à vous.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI ou sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour de la question, pourquoi l'intelligence humaine n'est pas un algorithme, en compagnie du professeur de psychologie Olivier Houdet, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et les oreilles grandes ouvertes à l'écoute de tous les possibles sur RFI. Le prochain journal, c'est dans une minute.